Bienvenue dans Itinéraire d'un lecteur gâté, le podcast qui aime la lecture sous toutes ses formes, le livre papier, l'e-pub, l'audiobook, le web. Dans cette deuxième saison, vous n'aurez plus le plaisir de m'entendre monologuer à longueur de temps, mais vous pourrez chaque mois découvrir les pratiques de lecture de mon invité et comment celles-ci ont évolué à travers les années et surtout comment la technologie a modifié ce rapport à la lecture. Ce mois-ci, pour cette première émission, j'ai l'extrême plaisir de recevoir un ami de longue date, un ami que j'ai d'abord rencontré sur un réseau social qui s'appelait alors Twitter, c'était alors un lieu fréquentable, la preuve, puis en vrai, en chair et en os, à Genève, qui est précisément la ville où je travaille désormais. Cet ami cher, cet ami de longue date, c'est Ghislain Dominé. Ghislain, comment vas-tu ?
Bonjour Yann, eh bien, ça va très bien. C'est un véritable plaisir que de te retrouver ici. Nous ne sommes plus finalement très très loin après des escapades à l'étranger. Et c'est un honneur d'être le premier hôte, le premier invité, pardon, de ce podcast.
Ah ben, tout le plaisir est pour moi. Et alors, c'est un plaisir que j'aurais voulu pouvoir avoir plus tôt parce que on est déjà au mois de novembre. En général, les saisons, les nouvelles saisons, ça commence plus tôt, mais bon, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Alors, Ghislain, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, alors au choix, rapidement ou alors très longuement, prends ton temps comme tu veux, afin que nos auditeurs puissent en savoir un peu plus sur toi.
Eh bien, on va voir. Soit ce sera la version Direct Store Cut que tu laisseras intégralement, soit une version raccourcie parce que j'aurais été trop bavard. Donc, comme toi, je suis enseignant, même si ça fait 4 ans maintenant que je suis en disponibilité et que j'ai franchi le Rubicon en travaillant dans le privé, donc enseignant d'histoire-géographie, puis j'ai passé ensuite presque 10 ans chez Réseau Canopé. Et puis effectivement, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer sur ce réseau qui est devenu maintenant un repère de fascistes, carence Twitter devenu X. Et à cette occasion, nous avons traversé de multiples aventures numériques avec l'arrivée des tablettes, bien évidemment, l'iPad est comme un élément déclencheur, puis au travers de formations, lesquels nous avons œuvré en commun, soit en présentiel, soit à distance. Et puis donc, depuis janvier de cette année, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle GoodID, qui est partenaire de Google. Et je continue mon petit bonhomme de chemin sur l'éducation, puisque je suis responsable de l'innovation et de la recherche. Donc, je parle éducation, notamment éducation supérieure, mais pas que, puisque l'innovation et la recherche, c'est totalement transversal. Ça touche tous les domaines du quotidien.
Merci pour cette présentation qui n'était pas très longue en fait. Hein. Tu as résumé ce long parcours en quelques mots. Quelle concision. Alors, ce podcast Nouvelle Saison est découpé en 5 grandes parties et qui vont t'amener surtout toi à parler de livres et surtout de la façon dont tu lis aujourd'hui. La première partie est intitulée La Madeleine de Proust. Ce sont une série de questions, de 3 questions qui vont nous plonger dans ton parcours de lecteur d'antan, dans ta jeunesse, dans ta folle jeunesse. Alors, cette première question, c'est enfant. Est-ce que toi, tu étais un grand lecteur ?
Alors, il se trouve que j'avais 2 activités en étant enfant, c'est les Lego et la lecture. Et au passage, ce sont encore des activités que je pratique. Alors malheureusement, le Lego, trop peu avec mes enfants parce qu'ils n'ont jamais trop accroché finalement. Ils ont davantage accroché à Minecraft. Mais la lecture, ouais, depuis que je suis enfant, c'est une pratique régulière, pour ne pas dire quotidienne.
Les Lego, moi aussi j'adorais ça, mais je ne joue plus du tout. Je ne sais même pas où ils sont passés. Ils ont dû être revendus. Ok. Et quel est le premier livre dont tu te souviens ?
Alors, je crois que c'est un livre Disney. Mes parents m'avaient abonné à une collection qui existe toujours. D'ailleurs, je l'ai dans mes amis, puisque mes enfants les ont eus quand ils étaient petits. Donc, toute la série, je crois qu'on doit être des milliers de Français à avoir eu ces livres qui certainement valent aujourd'hui pas mal d'argent sur les brocantes, surtout dans leurs premières éditions. Mais voilà, c'est vraiment le premier livre. Et puis après, assez vite, j'ai eu aussi le plaisir d'avoir été abonné à tout l'univers. Et donc, c'était dans un format pocket. Et j'avoue que ceux-là, je les ai usés jusqu'à la corde. Voilà mes premiers souvenirs de lecture.
Et tu dis que tu les avais conservés, tu les as conservés, tu les as encore ?
Les deux, je les ai encore. Il y a clairement ce côté Madeleine de Proust, très clairement, surtout pour les tout l'univers. J'avoue que ceux-là ont beaucoup plu.
Mais ce sont tes parents qui les avaient conservés ?
Je les avais dans ma chambre et puis ils sont toujours restés dans ma chambre. Et quand je suis,
D'accord.
quand j'ai quitté mon statut d'étudiant, qu'il a fallu que je rapatrie toutes mes affaires, ben, j'ai rapatrié ces livres-là au passage parce que je me disais que peut-être que ça plairait à mes enfants.
Ah, c'est absolument génial parce que moi je pense au nombre de choses dont j'ai dû me débarrasser d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, ça signifie soit le don, soit la vente, soit la poubelle. Des fois, j'avais absolument pas le choix, donc nécessité fait loi, mais je regrette de ne pas avoir pu conserver toutes ces choses-là. Bon, et aujourd'hui, alors. Quelles sont tes pratiques de lecture en termes de à la fois de temps, mais aussi de lieu ou de support? Le support, on en parlera longuement après, mais en termes de lieu et de temps, ce sont des questions qui m'intéressent. Oui.
Alors, vu que je fais pas mal de transports en commun, matin et soir, puisque je suis présent sur Paris la moitié de la semaine, j'ai donc le loisir d'avoir le tramway le matin, plus le train, plus le métro et le rebelote le soir. Donc, pour moi, c'est des moments privilégiés parce que ça me permet de lire comme dans une bulle. Et ensuite, je lis aussi énormément le soir, une fois que les enfants sont montés dans leur chambre et je relis juste avant de m'endormir. Donc c'est pour ça que ça occupe une volumétrie importante quotidiennement. Et
Ouais.
pour amorcer un peu la partie support, j'ai eu une grande phase, je crois comme toi, très 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 numérique et je continue à avoir cette pratique puisque ma liseuse ne me quitte jamais. Mais pour des raisons qui sont intimement personnelles, j'ai eu ce besoin de revenir aussi l'objet livre papier, avec cette perspective finalement qui peut-être ne m'a jamais quitté, c'est-à-dire de transmettre quelque chose. Et je mélange aujourd'hui les deux supports. On va dire que le livre papier, c'est un tiers et le livre numérique, deux tiers.
Ok. Et quand tu dis que tu lis beaucoup dans les transports en commun, est-ce que toi, tu as besoin de t'isoler dans ta bulle avec un casque à annulation de bruit ou
Alors,
tu t'en accommodes?
ça dépendra des gens qui sont autour de moi. Si on a des gens qui parlent très très fort, ça va juste être impossible de lire parce que je lis essentiellement en langue anglaise et c'est juste impossible d'un point de vue cognitif pour moi. Ça demande trop d'énergie que de m'immerger et de comprendre ce que je lis, tout en ayant une partie de mon cerveau qui ne peut pas s'empêcher d'écouter et de comprendre ce qui se dit juste à côté de moi. Donc
Ouais.
si ça parle trop fort, oui, c'est clair, je sors mes casques avec réduction de bruit, histoire d'être totalement dans ma bulle.
Écoute, on va passer à la seconde partie, hein, la première gorgée de bière numérique. Alors, quel a été ton premier contact avec la lecture numérique?
Alors, je vais faire un peu dinosaure, mais tant pis. Mon premier contact lecture numérique, c'est avec un Palm Pilot, puisque j'ai souvenir explicitement de lire l'intégrale de Sherlock Holmes dans ce petit format, alors que c'était.
Sur
J'étais en cours.
un Palm
Oui,
Pilot. Alors
sur
attends, c'était un écran de quelle dimension ça?
c'est du 3 pouces et demi, je crois.
Ah
On
oui.
est. Ah oui, on était sur un écran qui fait quoi? Un tiers de plus qu'un écran de Game Boy, quelque chose comme ça.
Ah oui, d'accord. Et t'as lu un peu. Alors
L'intégrale de Sherlock Holmes comme ça,
oui, c'est bien
avec
ça, parce
l'historique.
que en le reformulant, je me rendais compte encore plus de c'est incroyable. D'accord, donc et ça t'a pas découragé.
Ah non, parce qu'en fait, ce que je recherchais dans la lecture numérique, c'est exactement ce que j'y retrouve d'ailleurs toujours aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir annoter au stylet, d'avoir
Ouais,
vraiment ce
ouais.
contact, et les palmes disposaient d'un stylet intégré, et donc je pouvais stabiloter, je pouvais appuyer sur un mot pour chercher la définition, venir ajouter des post-it. Voilà, ça c'est vraiment mon premier contact, et après, il s'est véritablement accéléré, et c'est surtout amélioré d'un point de vue taille d'écran, de qualité, eh bien, dans un double mouvement, et c'est ici où j'aurai une pensée émue pour Mireille, que nous connaissons bien tous les deux, puisque quand je suis intervenu dans son établissement à San Francisco, alors que c'était pour ma première formation iPad à l'étranger, donc là, j'avais forcément déjà iBooks qui était chargé sur ma machine, elle m'a fait découvrir le Kindle. Et c'était, on est sur, je crois, elle devait avoir le Kindle 3 ou le Kindle 2. Oui, c'était le 2 parce qu'il était jamais, il n'était pas sorti en France, celui-là. Donc, Kindle avec un clavier physique dessus. Et c'était mon premier contact avec une liseuse, parce que finalement, le Pen Pilot, c'était pas vraiment une liseuse. On était sur un écran LCD, en fait. Hein, donc, c'était pas de l'encre
Ouais, ce qui est
numérique.
moins confortable.
Exactement, parce que sur le Pen Pilot, il y avait forcément, il y avait une couche tactile par-dessus qui laissait beaucoup d'espace d'air entre l'écran LCD et la couche tactile, donc c'était pas franchement fameux. C'est vrai qu'effectivement, je me dis aujourd'hui que j'ai lu quand même Conan Doyle sur ce format. Si le pauvre avait pu voir ça, il aurait été très étonné, certainement.
Ah oui, puis en plus, en passant au Kindle, tu devais doubler l'espace de lecture.
Ah oui, plus que ça, on passait à 6 pouces.
Ouais, 6 pouces, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, tu as déjà en partie répondu à cette question, mais ma question suivante, c'était, je voulais savoir si tu étais un fervent défenseur du papier ou si tu avais totalement abandonné le livre dans sa version papier ou si tu étais passé au tout numérique. Est-ce que tu as des positions très tranchées sur le sujet ou pas?
Alors, je n'ai aucune accointance familiale avec la Bretagne, mais pourtant, je serais très breton dans ma réponse. Les deux, mon capitaine, j'aime beaucoup les deux supports. Ils ont leur
Là, tu dis breton, tu dis pas normand, en fait.
Ah oui, c'est vrai que je vais peut-être fâcher des gens au passage avec cette histoire.
Oui, tu vas fâcher des gens. C'est... mais donc, une réponse de breton ou de normand, c'est-à-dire qu'en fait, tu utilises les deux, en fait.
Oui, j'utilise les deux. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu une grande phase uniquement numérique. C'était essentiellement pour des questions de place. Parce que, grosso modo, ma consommation de livres papier était devenue problématique pour mon épouse. Ça prenait vraiment définitivement trop de place et il y avait partout. Et donc, c'était plus possible. Et donc, je voulais éviter les tensions. Et effectivement, c'était quand même bien plus pratique de pouvoir avoir l'intégralité de mes livres que je pouvais avoir autant avoir sur ma tablette classique que sur ma liseuse. Donc, j'avais finalement aussi un duplicata de tous ces livres. Je sais que d'un point de vue cognitif, il y a des moments où le livre papier va être... plus adapté à un moment donné, avec un feu de cheminée numérique dans mon salon et plongé avec un plaid. Voilà, finalement, il va y avoir tout cet environnement qui va faire que c'est le livre papier que je vais saisir. Et il y a aussi un élément important, c'est que en plus d'être breton dans ma phrase initiale, j'ai aussi le travers souvent d'avoir les livres en double, c'est-à-dire que je les ai en version papier, et quand je les apprécie, tellement, j'ai des versions numériques et réciproquement, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à me dire ce livre, je tiens à l'avoir comme objet, qu'il fasse partie de mon paysage, un petit peu comme une forme de dialogue en sourdine, où je te vois, on se parle finalement, et puis le livre numérique que je ne vais pas hésiter à stabiloter comme un barbare, et je vais en mettre partout, j'ai aucun regret, voilà, donc je vais avoir effectivement tendance à cumuler les deux, donc c'est tant mieux pour les auteurs, parce que dire qu'ils sont payés deux fois.
Oui, c'est vrai, il y a cet aspect-là aussi. Bah, tu vois, hier, j'étais à la FNAC et en fait, moi, j'ai tendance à lire que sur écran, en fait. C'est même pas une tendance, en fait, c'est un fait avéré. Et dans les rayons de la FNAC, je passais au rayon BD et là, pour le coup, mon amour pour les cristaux liquides ou pour l'encre numérique a complètement flanché. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne peut remplacer, enfin, de mon point de vue en tout cas, ne peut remplacer une bande dessinée sur papier, en fait. Le plaisir est complètement différent. Et à dire vrai, je crois que je n'ai jamais vraiment éprouvé de plaisir à lire une BD sur un écran. À part peut-être sur certaines BD sur l'iPad, dans sa plus grande version, celle en 12,9 pouces, où là, on commence à avoir une dimension raisonnable pour ce type d'ouvrage, et encore, peut-être même pas sûr, en fait. Et que penses-tu de l'avenir du livre? Alors c'est une grande question. Alors évidemment, quand on invite quelqu'un à sortir la boule de cristal comme ça, c'est jamais très très facile. Mais penses-tu qu'un jour le livre numérique pourrait supplanter le livre papier? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu en penses?
Eh bien, on va prendre un peu de hauteur et je vais m'appuyer sur des épaules de géants, c'est-à-dire sur des gens qui ont déjà réfléchi, pas forcément spécifiquement à cette question, mais en tout cas sur la partie médium, c'est-à-dire est-ce qu'un objet culturel, un média peut être remplacé par un autre. Ben, grosso modo, les médiasphères ont plutôt tendance à superposer. Le cinéma n'a pas tué le théâtre, la télévision n'a pas tué le cinéma, même s'il y a eu des moments où c'est forcément plus difficile, mais finalement, les questions sont souvent très complexes, elles sont liées à des raisons économiques, elles sont aussi liées à l'offre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose au public, est-ce qu'il y a des cinémas un peu partout. Mais dans tous les cas, la radio continue d'exister, alors que les radios Internet existent depuis quasi le début, etc. Et donc, pour moi, le livre papier ne va pas disparaître. On aura toujours besoin de ces supports. Peut-être que certains types d'ouvrages seront moins imprimés que d'autres. On a déjà eu ces discussions il y a plus de 10 ans. Je ne sais pas si tu te souviens quand on a parlé livres numériques, hein, à propos des manuels scolaires. On se posait la question, est-ce que le manuel scolaire, finalement, n'aurait pas toutes les raisons de péricliter par rapport à la tablette? Il se trouve que finalement, non. Et comme tu l'avais déjà brillamment écrit à cette époque, il y a des raisons économiques profondes sur ces sujets qui font qu'il y a des persistances. Et donc, je suis totalement convaincu, et ça c'est peut-être ma vision de vieil archéologue qui ressort là, non, les deux vont cohabiter, certains usages se spécialiseront, il y aura des moments où le livre numérique prend plus d'ampleur, et puis en fonction aussi du contexte, le livre papier reviendra sur le devant de la scène, mais les deux ont, à mon avis, vocation à perdurer, peut-être avec des spécialisations temporaires, mais je ne vois pas l'humanité abandonner ce support.
Oui, je crois pas non plus, hein. De toute façon, le papier semble offrir une résistance que n'a pas eu d'autres, enfin que d'autres industries n'ont pas connue, hein. Par exemple, l'industrie de la musique a été complètement réinventée, mais l'industrie du livre semble connaître une certaine stabilité, il me semble.
Ceci dit, le vinyle est revenu en
Oui.
force. D'ailleurs, moi-même, j'en ai fait, je suis revenu aussi à ce support, adorant le crépitement du diamant sur le vinyle en même temps que le crépitement de mon feu numérique sur la télé. Le CD semble visiblement arriver dans cette phase aussi de reprise, comme quoi, hein, il y a, c'est un petit peu finalement comme les vêtements, il y a des moments où les modes semblent passer, mais on revient aussi à cela, quand on voit aujourd'hui, il y a des jeunes gens redécouvrir le Walkman et la cassette audio, et donc l'utilité du crayon à mettre dans sa cassette pour l'envoyer, ça montre qu'il y a des persistances majeures, l'être humain est une espèce culturelle qui conçoit des objets, et qui manœuvre les objets. Et donc, on ne les construit pas juste, on ne les fabrique pas juste pour construire un objet, c'est parce qu'on y met du soi dedans. Et finalement, réécouter un support tel que le vinyle, le CD ou la cassette, c'est aussi se replonger, comme la Madeleine de Proust tout à l'heure, hein, c'est l'analogone de Proust. Hein. Quand je déguste ma Madeleine, finalement, je ne fais pas que manger un gâteau, je me souviens du moment où je l'ai dégusté, de tout le contexte dans lequel j'ai dégusté, avec qui je l'ai dégusté, etc. Et donc, peut-être qu'effectivement, la liseuse ou la tablette, qui est un objet extrêmement individualiste, puisque grosso modo, il n'y a que moi qui puisse lire, qui puisse voir ce qu'il y a dessus. J'ai parfois un peu de mal à le prêter. Ça, c'est peut-être une discussion qu'on pourrait avoir tantôt sur la difficulté à prêter un livre numérique. Bah, le livre en papier n'a pas ces difficultés. On peut le laisser sur la table du salon, le partager, la noter. On a une forme de dialogue très important avec cet objet. Et oui, pour revenir à cette question de fond, ça ne disparaîtra pas et il y a des raisons profondes à cela.
Bah, tu es en train de répondre à la question suivante, hein, en fait,
Ah.
parce que tu vois, la question suivante, c'était quelle plus-value est-ce que tu vois dans le numérique? Et inversement, penses-tu qu'on perd quelque chose avec le livre numérique? Et tu vois, tu es en train d'y répondre parce qu'effectivement, un livre numérique, surtout si tu l'as acheté en bonne et due forme, et que tu veux le prêter, bah, tu ne peux pas, hein, parce qu'en fait, il y a des DRM. Moi,
C'est un coup de coude.
je m'en étais plein bruyamment ici ou là sur les réseaux sociaux aussi. Je me souviens il y a quelques années quand j'étais passé de la France au Royaume-Uni et que j'avais voulu montrer un livre à une de mes élèves. Je crois que c'était L'univers expliqué à mes petits-enfants, d'Hubert Reeves. Donc je dégaine mon iPad avec l'application Books et je cherche le livre, je le cherche vainement et en fait il avait complètement disparu. Et pour des questions de droit, pour des questions de restrictions géographiques, en fait le bouquin n'y était plus. Je vais y arriver. Moi, je me suis interrogé sur un autre sujet. En fait, ma fille, là, qui est dans la pièce à côté, la plus jeune de mes filles, a un lecteur CD. Donc, elle adore acheter des CD. Évidemment, on a un abonnement à, alors, ici, c'est Apple Music. Avant, c'était Spotify. On y reviendra peut-être un jour. Mais enfin, un abonnement numérique, en fait. Donc, elle a tout ce qu'il faut, parce que je paye chaque mois un abonnement. Mais elle a ce plaisir de posséder des objets comme ça. Et je me disais aussi, je ne suis pas sûr qu'elle en ait conscience, mais quelle est peut-être la plus-value qu'il y a dans la possession de cet objet physique? Bah, on en a parlé tout à l'heure, hein, le plaisir de l'objet, puis aussi de la transmission, en fait. Mais tu vois, avec cet objet physique, elle peut écouter de la musique, tu vois, elle peut brancher ses écouteurs dessus sans que je trouve rien à y redire. Alors que si je regarde son temps d'écran sur son téléphone et que je vois qu'elle a passé 8h30 de musique au lieu de faire ses maths, je pourrais avoir des velléités de contrôle comme ça, tu vois, qui ne sont absolument pas possibles avec d'autres types d'objets. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, il y a une dimension politique, économique, bien sûr, on l'a vu, mais aussi politique dans le choix des objets que tu fais. Mais bref, la question suivante, c'est quel est ton support favori pour lire? Alors, tu as parlé de ce plaisir que tu avais avec le livre papier et puis la liseuse, mais sur quoi tu lis d'autres et pour quelles raisons ou pour quel avantage? Tablette, ordinateur, liseuse, téléphone avec un écran de 3,5 pouces. Dis-nous tout.
Alors, je vais commencer par le support que je ne supporterai pas pour la lecture, en l'occurrence, c'est l'ordinateur. Et il s'explique très largement par la posture. C'est-à-dire que le corps, comme je crois le corps de tous les êtres humains, n'est pas fait pour lire en étant assis devant un grand écran ou un écran de portable, comme c'est le cas en ce moment. C'est pas possible. Et ça s'explique par la posture, mais aussi par la gestuelle. Parce que si, pour moi, la lecture est toujours liée de manière consubstantielle à la notation. C'est peut-être le travers de mes études d'histoire où j'ai pris mon pied intellectuel avec l'étude des notes marginales des manuscrits médiévaux. Et j'ai d'ailleurs tendance toujours à répéter à mes grands qui sont en terminale, en fait, le plaisir du livre, il est surtout dans ce qui a été noté dans la marge. Parce qu'on entame alors un triple dialogue avec l'auteur d'origine, avec celui qui a annoté et avec soi-même. Et donc, dans ce jeu à trois bandes, c'est extrêmement enrichissant. Et donc, mon critère pour le support, ça va être est-ce que je peux avoir un crayon en main? Est-ce que je vais pouvoir annoter, stabiloter, bref, m'approprier le texte? Et la partie liseuse me convient parfaitement à ce sujet parce que je vais effectivement stabiloter et annoter. C'est vrai que depuis cette année, je suis passé sur la Remarkable précisément pour cette raison. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai le crayon en main et j'ai le confort de l'encre numérique. Et franchement, c'est juste pour moi la très très bonne combinaison. Et le fait de retourner au papier, c'est aussi parce que je vais avoir ce plaisir d'annoter, de venir coller des post-it sur les pages. Donc il y a vraiment un travail du texte et ça va me permettre aussi de choisir parfois mon édition papier. Il va me falloir de la place. Et j'ai beaucoup de mal avec les livres de poche. Alors qu'ils sont très pratiques au passage, puisqu'il y a vraiment un sac à dos. Mais par contre, c'est juste infernal pour écrire des notes marginales, etc. C'est pas possible. Le format du livre court-circuite complètement ces velléités de dialogue avec l'ouvrage.
Oui, absolument. C'est la même chose pour l'enseignant que je suis, d'ailleurs. J'ai toujours pensé que le papier n'était pas fait pour être annoté. C'est comment veux-tu corriger une copie d'élève avec une petite marge dans laquelle il y a des trous? C'est pas possible. Alors, tu as parlé de la Remarkable, donc c'est la liseuse que tu as adoptée récemment.
Alors, je l'utilise essentiellement pour certains types d'ouvrages. Ça va être des monographies, ça va être des articles de recherche. Donc, grosso modo, le support privilégié, ça va être le PDF. Parce que le format A4 s'y prête à merveille. Et les fonctionnalités liées au livre numérique, je pense notamment au dictionnaire intégré, la traduction intégrée, etc., ne sont pas disponibles. D'ailleurs, grosso modo, le Remarkable, c'est vraiment la prise de notes et le travail sur le PDF. Pour la partie en dehors, pour toutes mes lectures hors monographie, ben là, je passerai sur ma Kindle. Parce qu'effectivement, là, on a toutes les fonctionnalités liées justement à la traduction, aux fonctions sociales aussi, le fait qu'on voit aussi tout ce qui est déstabilité par des gens qui ont aussi lu le livre. Donc, je rentre vraiment dans ce processus de dialogue multidimensionnel finalement avec le livre. Et puis, ouais, c'est les deux formats. Et en plus, ils ont deux tailles totalement différentes, puisque le Remarkable va avoir un écran de 10 pouces un peu passé, tandis que sur la Kindle, je vais être sur le petit format, je vais être sur du 6 pouces, parce que ça se glisse effectivement aisément dans les poches de manteau ou dans mon sac à dos.
C'est quel modèle? C'est la
Alors,
Voyage?
il se trouve que tout récemment, j'ai pris la toute dernière qui est sortie parce que je la trouve trop mimi avec la couleur matcha, la couleur de thé. Comme ça renvoie à ma boisson préférée.
J'allais dire, c'est les Kindle pour enfants, mais non, c'est parce que maintenant ils font des modèles en couleur, c'est ça?
Ouais, et en fait, je trouve la couleur totalement adaptée au livre parce que grosso modo, cette couleur un peu verte là, de matcha, quoi, fait ressortir complètement le côté blanc de l'écran. Donc, hein, c'est juste un biais de couleur, hein, parce que
D'accord.
si j'avais pris une Kindle blanche, ben, en gros, le papier, l'écran m'aurait paru un peu plus grisâtre. Et si on prend une Kindle ou une Kobo, qu'importe, noire, c'est quand même la couleur un peu standard, ben, on n'a pas ce même jeu de contraste par rapport au papier. Donc, je trouve, voilà, j'avoue que j'ai craqué sur ce modèle tout récemment, puisqu'il est sorti, je crois, il y a quelques jours seulement. Mais en fait, c'était le bon format, 6 pouces. Il y avait de l'USB-C, j'avoue que j'en peux plus du micro USB.
Du micro USB,
Ah
oui.
ouais, je veux un seul chargeur dans mon sac à dos pour charger tous mes appareils. Voilà.
Un chargeur pour les charger tous, oui.
Exactement. Et puis, ma précédente Kindle avait déjà 10 ans, donc je pouvais me permettre, écologiquement parlant, de passer à une version plus récente. Oui,
Mais sur la Remarkable, je pourrais dire des EPUB aussi.
je le fais de temps en temps,
Préfère,
mais. Ouais, je le fais de temps en temps, mais on peut annoter stabilité, mais je perds juste des fonctions d'interaction avec le texte. J'espère que dans une mise à jour prochaine, parce que Remarkable là-dessus fait un très très bon boulot en termes de mise à jour, j'espère qu'ils vont intégrer cela. Parce que ça rend l'outil un petit peu moins efficient de ce point de vue. Mais par contre, pour tout ce qui est travail sur les monographies, sur les articles PDF, etc., c'est un pur bonheur. Parce que clairement. Je me fais plaisir en termes d'annotation et de gribouillage sur mes livres.
Ouais, j'imagine. Mais alors attends, parce que j'étais pas au courant. En fait, si tu lis un EPUB sur une Remarkable, t'as pas le dictionnaire intégré, par
Non,
exemple?
non, non.
Wow. Je
Tu
savais pas.
as les fonctionnalités de calque, ce qui est très plaisant, parce que grosso modo, tu peux rajouter plusieurs types de calques sur tes pages. Donc, ça permet plein de possibilités pédagogiques, hein, de ce point de vue. Hein. Tu as les annotations pour les élèves, les annotations de correction que tu as ajoutées sur un document qui t'est rendu par les élèves, etc. Donc, c'est plein de possibilités. Mais il manque ces petites fonctionnalités que j'apprécie tant sur ma Kindle, c'est-à-dire les interactions, ni plus ni moins, avec les mots, avec les phrases. Et ça, c'est très intéressant.
Et alors, attends, parce que là aussi, je ne savais pas. Tu parles des élèves. Est-ce que tu pourrais, par exemple, parce que il me semble que en fait, tu peux connecter ton compte Google, ton Google Drive sur la Remarkable. Tu pourrais récupérer le dossier Classroom et donc corriger
Exactement.
certaines copies des élèves. Ah, c'est génial.
Tout à fait.
Ouais, il faudrait que j'essaie ça. Ok. Et alors, donc on a parlé de brièvement de Kobo, essentiellement de Kindle et de Remarkable, de livres avec des mots écrits en noir et blanc. Et est-ce que tu écoutes des audiobooks?
Alors, à mon grand regret, je n'ai pas encore trouvé la bonne recette. Il y a des audio, j'ai l'application Audible installée depuis très longtemps. J'en ai acheté en fait quasi automatiquement parce qu'en achetant le livre numérique, j'avais automatiquement accès à la version audio. Donc j'en ai un certain nombre dans ma bibliothèque et j'ai fait le compte pour préparer ce podcast. Aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, j'ai acheté 736 livres numériques. Ouais. Donc, voilà, j'ai bien agi, je crois, à ce niveau-là. Et donc, j'ai un nombre conséquent aussi d'audiobooks qui étaient chargés quasi automatiquement avec. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé le bon contexte. Et je crois que c'est comme pour la bulle que tu évoquais tout à l'heure dans le transport en commun. Pour moi, le livre audio, il va falloir que je trouve le bon moment. Le bon contexte pour que je rentre dedans. Tout récemment, puisque je suis un amoureux de l'œuvre de Tolkien, j'ai bien évidemment lorgné sur les adaptations, sur les interprétations par Andy Serkis, qui sont juste fabuleuses. Franchement, à écouter des extraits, c'est juste brillantissime. Mais j'ai pas trouvé le bon moment. Et ça viendra peut-être. Peut-être que ça viendra avec l'âge, peut-être que ça viendra avec les lieux. J'aimerais pouvoir m'y coller un peu parce que ça vient ajouter une couche extrêmement intéressante d'un point de vue émotionnel, puisque la lecture est interprétée, et bien évidemment, ce qui fait la qualité des audiobooks, c'est qui va lire le texte. Et là, on peut avoir des interprétations vraiment sublimes. Franchement, dans les audiobooks que j'ai déjà, j'en ai repéré quelques-uns que j'ai mis en favori alors que je ne les ai toujours pas attaqués. Mais rien qu'en ayant écouté quelques pages, j'ai trouvé ça brillant. Mais voilà, il faut que je trouve le bon équilibre, la bonne recette.
Ouais, bah, exactement pareil. J'aimerais aimer les livres audio et je crois que je les aime, mais je n'arrive pas à les écouter et je sais pas trop, je ne saurais pas trop dire pourquoi. Enfin, si, je pense que je répondrais à quelque chose d'assez similaire à toi. Après, j'ai un espoir, c'est que bon, j'ai un espoir, c'est de devenir vieux, tu vois, pas mourir dans la fleur de la jeunesse. Mais comme je sais que j'y vois de moins en moins bien, peut-être qu'un jour, j'y verrai plus du tout. Alors, dans ce cas-là, le livre audio deviendra une ressource précieuse et qu'en plus, cette ressource s'enrichira effectivement de la beauté de certaines lectures. Ouais. Non, je me souviens, c'était il y a des années de ça. Hein, j'avais écouté, je pense qu'il y avait une publicité à la radio sur France Info, France Culture, je ne sais plus. C'est une lecture de La Recherche du Temps Perdu par je ne sais plus quels acteurs français, mais c'était assez impressionnant. Donc, j'aimerais vraiment un jour me jeter à corps perdu dans les audiobooks, mais plus tard probablement. Et alors, pour finir cette partie, je ne sais plus laquelle c'est la deuxième partie. Comment est-ce que tu vois l'avenir du livre numérique ou l'avenir du livre tout court d'ailleurs, en fait, dans les prochaines années? Je crois que dans le questionnaire, j'avais mis les 10 prochaines années, mais soyons fous. Les
Alors,
prochaines années.
je pense qu'on a tous les deux assez de bouteilles sur le sujet pour peut-être constater que sur la partie livre numérique, on est face à une forme de cœur avec ces deux valves. Évidemment, ça se contracte, de moment, ça s'étend et on a ce mouvement très binaire. Et si on regarde un petit peu comment le livre numérique est médiatisé, bah, grosso modo, on a des phases d'accélération. D'un coup, on se dit, ah, on redécouvre enfin les fonctions d'accessibilité du livre numérique. On se dit, ah, c'est super. Les petits vieux peuvent grandir le texte en oubliant au passage que tout le monde profite de ces fonctionnalités d'accessibilité. Et puis, il y a des moments où, en fait, ça se contracte parce que on est dans des phases de conservatisme intense. Dans cette période hein, où d'un coup le numérique c'est le mal absolu, hein, on passe trop de temps sur les écrans. Mais sacrebleu, est-ce qu'on considère que lire un livre sur sa tablette ou sa liseuse c'est du temps d'écran et qui serait dommageable pour notre cerveau? Donc il y a ces phases comme ça d'expansion et de contraction. Quelque chose qui me semble à peu près assuré, c'est que on semble avoir fait le deuil de ce qui avait pu nous enthousiasmer, nous autres, il y a quelques années, au moment d'iBooks Author, etc., on disait, waouh, génial, l'auto-édition, c'est merveilleux, on va pouvoir faire des livres enrichis avec des vidéos, du son, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait le deuil de ça parce qu'on a mesuré finalement le peu d'impact cognitif, ou alors au contraire, le fait que c'était justement.
C'est trop.
Ouais, c'était too much finalement. Mais ça aussi, c'est très classique, c'est-à-dire qu'on pousse tous les curseurs au maximum avant de retrouver une position d'équilibre. Et une des positions certainement qui permettra de stabiliser l'ensemble, c'est quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le fait que le livre numérique, malheureusement, est un petit peu dans une prison et que c'est très compliqué de faire vivre le livre numérique comme on fait vivre un livre normal, un livre papier. Et donc, toute la question du partage, du prêt. Alors, oui, on peut. Alors, en France, c'est quand même assez compliqué de pouvoir emprunter du livre numérique en médiathèque, etc. Il y a des médiathèques qui, par rapport à ces contraintes, propose de prêter une liseuse directement, parce que finalement c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Le livre est préchargé avec les livres, on ne s'embête pas, parce que sinon la question des DRM, c'est une vraie plaie. Donc tant qu'on n'a pas fait sauter ce verrou-là, finalement on est sur un objet culturel qui est profondément contraint. Et on n'a pas eu cela avec la cassette audio. On a tous fait des mixtapes, comme c'est pas possible quand on était ado, hein, en train de choper le bon moment, la musique qu'on adore, à la radio, l'enregistrer sur une cassette, à faire des duplicates, à faire des playlists à l'ancienne, comme ça. On a connu ça, bien évidemment, avec les CD. Souvenons-nous de la campagne d'Apple avec. C'était. Remix Burn, où voilà, on récupérait ses CD, on faisait ses propres playlists, on gravait de nouveau un CD pour le mettre dans son Dixman. Ça, c'était avant l'iPod. Le livre numérique, on ne peut pas faire ça. Alors, bien évidemment, ça a ses vertus par rapport aux problématiques de piratage. Mais sacrebleu, quand j'ai acheté ce bien culturel, il est a priori à moi, alors ça aussi, c'est pour être un autre débat, est-ce qu'il est véritablement à moi, cet objet? C'est hyper compliqué. Il est dans une tour avec des verrous de partout. Des résultats, je ne peux pas rentrer dans une dimension de partage, de communauté, de ces moments extrêmement plaisants, parce qu'on lit le sel de l'humanité, c'est-à-dire j'échange avec toi sur ce que j'ai lu, qu'est-ce que tu en as pensé, etc. Et donc peut-être que si on arrive à faire sauter ces murs, on donnera vraiment de l'air et ça permettra à ce livre numérique d'avoir une place totalement légitime dans le paysage.
Oui, je me demande ce qui pourrait faire évoluer les choses de ce côté-là, hein, parce qu'effectivement, la question des DRM est une question complexe et je vois mal comment on s'en débarrasserait. En tout cas, je serais assez intéressé aussi de voir l'évolution des écrans. Alors, tu as mentionné les écrans, ces écrans qui sont souvent l'incarnation du mal, hein, qui détruisent les yeux et abrutissent les cerveaux. Mais, et tu vois, c'était quoi? La semaine dernière, j'étais dans ma voiture et j'étais en train de faire une marche arrière, mais je regardais évidemment sur la caméra, tu vois, enfin sur l'écran de la voiture, et je me disais qu'en fait pour moi l'avenir c'est plus d'écran, c'est pas moins d'écran, tu vois. Plus il y a d'écran, plus je suis heureux. Celle qui me montre ce qui se passe derrière ma voiture quand je fais une marche arrière, je trouve ça absolument merveilleux. Ça m'évite de me tordre le cou. Mais c'est la même chose sur mon Thermomix, tu vois. En fait, il y a un écran, il y a des écrans partout.
Cette réflexion qu'on peut avoir ici nous rappelle la polysémie du mot écran.
Ouais.
Est-ce que c'est un obstacle? Est-ce que c'est quelque chose qui obstrue ta vue? Et donc, en plus, ça peut avoir tendance à déformer ta vue. Donc, finalement, tu ne vois pas véritablement la réalité. Ou est-ce que c'est un médiateur? Et je crois que toi et moi, on est d'accord pour dire que les écrans, c'est un médiateur. C'est comme la souris de ton ordinateur, c'est comme le stylet quand tu annotes. C'est un médiateur. Et mettre dans un même panier les écrans, comme si effectivement Satan...
Ou les usages se valaient.
C'est juste très réducteur. Et c'est même insultant, à vrai dire, parce que c'est insultant pour la personne qui utilise les fameux écrans. Enfin, c'est terrible, ce mot valise.
Oui, il faut le bannir. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Et sur l'écran, je me demande aussi comment il va évoluer, parce qu'il devient de plus en plus fin, on le veut pliable, on le veut souple. Je ne sais pas quel ouvrage de science-fiction montre ce genre de choses, mais on y vient, hein, de toute façon.
Mais ce reste pas un retour du parchemin, voire même des papyries qu'on pouvait rouler et ranger en bibliothèque. On a beaucoup parlé de stylet.
Le palimpseste.
Et oui, on a beaucoup parlé de stylet. Et au final, on voit bien cette vision à très long terme de l'humanité. On revient à ces formes. Et comme quoi, il y a vraiment un continuum au travers, là, non pas juste de décennies, mais on va parler de centaines, ce n'est pas de milliers d'années d'ailleurs. Au final, en Mésopotamie, on écrivait sur des tablettes avec un stylet. Aujourd'hui on parle d'écrans pliables et d'écrans qui se roulent sur eux-mêmes, mais grosso modo la bibliothèque d'Alexandrie était remplie d'ouvrages qui prenaient précisément cette forme.
Alors, sur ces tablettes d'argile, on tenait des comptes, hein, mais on comptait les moutons, mais effectivement, ça nous ramène à ces tablettes-là.
Et on a écrit aussi des aphorismes, on a écrit des
L'épopée de Gilgamesh, je ne sais pas si c'était sur tablette.
C'était sur tablette, oui.
Oui, c'était sur tablette, oui. C'est la fin du repas, on va se prendre un petit café. C'est la troisième partie. Et pour cette troisième partie, j'ai quelques questions sur la façon dont tu choisis tes livres. Et de fait, voilà la question. Comment est-ce que tu fais pour choisir? En fait, je pose la question, mais je te l'explique un petit peu, hein, parce qu'en fait, je trouve que choisir des livres, trouver des livres sur une interface, tu vois, par exemple, aller sur Amazon pour chercher un livre, c'est... C'est mission impossible, en fait. Un peu comme chercher un film sur Netflix. En fait, si tu veux regarder un film en famille et choisir ton film sur Netflix...
Il faut s'y prendre 2 heures à l'avance.
Exactement. Si tout le monde ne part pas complètement désespéré avant d'avoir trouvé quoi que ce soit. Bon, bref, c'est compliqué. Toi, tu fais comment, alors?
Alors, ne serions pas, nous, là, en train de dire que les systèmes algorithmiques sont un epic fail pour nous deux? C'est fort vraisemblable. Alors, pour choisir mes livres... Malheureusement, je n'ai plus trop cette occasion que j'avais quand j'étais étudiant de passer en librairie et d'y passer un temps certainement trop important et d'avoir une forme de coup de cœur avec une couverture ou une quatrième de couve. Aujourd'hui, en fait, ça va être essentiellement par mon agrégateur de news, où j'ai une section littérature, j'ai une section culture, une section politique, une section histoire. Et donc, au travers de mon agrégateur, en fait, tous les matins, je fais ma revue de presse avec mon café, justement. Et à ce moment-là, je vais découvrir des nouveaux ouvrages ou des rééditions. Je vais mettre un petit post-it en disant Ça pourrait être sympa. Après, effectivement, je peux tomber assez facilement dans le syndrome du tsundoku, hein, ce mot japonais, si ça a évoqué tous les livres que tu achètes et qui sont une pile que tu n'as pas lu. Pendant un certain temps, je l'ai dramatisé en disant, mais c'est pas possible, quel gâchis. Et en fait, non, Umberto Eco m'a rassuré sur ce sujet. C'est super important d'être entouré de ces livres qu'on n'a pas encore lus, mais qu'on lira. Pas tout de suite, peut-être dans très longtemps. Mais en fait, on entretient justement cette présence. Donc, cet agrégateur va me faire dire, est-ce que ça vaut le coup de l'avoir en livre numérique spontanément? Est-ce que j'ai un vrai coup de cœur tout de suite et je vais me dire, il me le faut en livre papier? Par exemple, alors maintenant que Christopher Tolkien est décédé, la source s'est un peu tarie sur les rééditions et les travaux concernant l'œuvre de son père. Donc, là-dessus, j'ai plus trop de coups de cœur livre papier où je ne prends même pas le temps de réfléchir, je clique sur acheter. Aujourd'hui, je passe davantage sur la phase liseuse. S'il y a un vrai coup de cœur, par exemple, là, je suis en train de lire Laboratories of Autocracy, souvent ma papier, je l'ai en papier parce que je l'ai adoré en liseuse et que je ne l'ai pas fini en liseuse pour le poursuivre en livre papier. Et à l'inverse, là, par exemple, sur ma liseuse, j'ai la droitisation française, Mythes et réalités. C'est excellentissime, je crois que je vais l'avoir dévoré en même pas 3 jours. Là, par exemple, celui-là. Il était dans mon flux du matin et je l'ai acheté immédiatement en liseuse. Et il est fort vraisemblable que j'achète en papier pour les prêter parce que je l'ai trouvé tellement bien que je veux le filer un petit peu autour de moi.
Ah oui, donc tu rachètes en version papier pour prêter.
Ouais, souvent, bien souvent,
Wow.
effectivement.
Ok. Et pour te tenir informé, là aussi tu y as répondu. Pour te tenir informé, donc la question c'était quel support ou quelle application privilégiais-tu? Tu as parlé de QRSS, je crois,
Ouais,
d'agrégateur de news.
alors donc j'utilise le grand méchant Google News. L'application est simple, on peut ajouter ses propres flux et l'application est efficiente par rapport aux algorithmes, c'est simple. Des fois, sur mon compte du boulot, je lance Google News où je ne l'utilise pas. Et c'est juste infâme, c'est-à-dire que la sélection de nouvelles est juste
Ah
terrible, on aurait tendance à le fermer immédiatement, parce qu'il y a juste des trucs qui ne m'intéressent pas, ou quand je vois popper dans le flux des
oui.
trucs sur CNews et puis Cyril Hanouna, voilà, j'ai des pulses, mon rythme cardiaque augmente drastiquement et dangereusement.
J'imagine.
C'est pas du tout la même chose sur mon Google News, où pour le coup, vu que j'utilise depuis longtemps, en fait, il est totalement dans ce qui m'intéresse, avec toujours quand même un flux principal qui va ouvrir un peu le scope. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire d'avoir des sélections qui m'intéressent. J'ai principalement, pour ne rien vous cacher, j'ai donc littérature, j'ai culture, dans lequel il y a le cinéma, etc. Il y a science, parce que j'aime beaucoup l'astronomie et l'archéologie. Donc ça, c'est vraiment des sections qui sont vraiment bien filtrées par rapport à mes goûts. Et j'ai la section pour vous, qui, elle, va toujours être un petit mélange de tout que je ne connais pas, avec des trucs, dans des thèmes que j'apprécie. Et là-dedans, en général, il y a toujours des petites pépites qui sortent en disant, ah ben tiens, des sélections du Guardian ou de la BBC. Et là, je me dis, hey, ça, c'est vachement bien. Go.
Ok. Et est-ce que tu utilises des applications du type Read It Later? Alors, je ne sais même pas comment le traduire en français, mais tu sais, des applications du
Oui,
type Insta, j'allais
c'est
dire
ça. Je mets, je...
Insta Paper, Pocket.
Ouais, je mets de côté et puis je verrai. Alors, sur les 10 dernières années, j'ai beaucoup changé d'app. Alors, Evernote avait vraiment le monopole pour moi pendant très 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 longtemps, puisque l'extension était vraiment juste géniale pour envoyer dans Evernote. Ça nettoyait les pages, j'avais plus de pub, je pouvais venir annoter dessus. Puis bon, Evernote est devenu une pure
Evernote.
catastrophe. Voilà, une pure
Alors, un autre
catastrophe.
Evernote.
Voilà. Donc il a fallu trouver un territoire d'accueil. Bon, finalement, je me suis contenté de Keep, de Google Keep, mais surtout de ma liseuse. C'est-à-dire qu'en gros, j'envoie ce qui me plaît sur ma liseuse ou sur ma Remarkable, parce que l'extension Remarkable est très très bonne aussi. Ça te fait apporter aussi un très bon boulot de nettoyage, etc. Et j'avoue que sur la partie article, je vais privilégier justement le grand format, les 10 pouces, parce que je sais que c'est des articles que je vais travailler, que je peux potentiellement mettre aussi en archive. Parce que voilà, une fois que j'ai chopé les bonnes références, je vais passer plutôt à la monographie derrière. Et quand c'est des articles un peu plus longs et longue forme, par exemple du Guardian le week-end, où là on va avoir plus d'une dizaine de minutes de lecture, ça en général je vais l'envoyer sur la liseuse parce que je sais que je vais prendre mon temps de me mettre dans le canapé. Et ça va plutôt être pour déguster une revue d'un film, ce genre de choses, où j'aurai moins besoin finalement d'annoter.
Ça, c'est vachement bien. Moi, j'utilisais, avant de passer à Readwise Reader, j'utilisais Matter, Matter, qui avait cette extension qui permettait d'envoyer, par exemple, un article, je sais pas, du Guardian, justement, et puis de l'envoyer sur le Kindle ensuite. Ça, c'est une fonction que j'ai perdue et que j'aimais bien. J'espère un jour retrouver. Tu utilises encore les réseaux sociaux pour t'informer ou c'est plus possible?
Alors, il y a de nombreuses années, j'avais écrit un article qui s'appelait les migrations numériques, un peu comme ça, où j'évoquais le fait que les communautés transitaient d'une plateforme à une autre. En fait, moi, j'ai totalement émigré. Et j'ai tellement émigré que j'en ai même rompu avec cela. C'est-à-dire que je suis devenu une forme d'ermite à ce sujet. Bien évidemment, la manière dont Twitter a sombré a été un élément déclencheur. Très clairement. Et je n'avais nullement intérêt à aller en face, à vrai dire. Je
En
pense notamment
face, quand tu dis en face, c'est...
Facebook ou ce genre de choses. J'ai aucun intérêt. Après, j'ai aussi des raisons intimement personnelles, hein, liées à ma vie personnelle qui m'ont amené aussi à me replier sur moi-même. Mais il y a globalement quand même aussi cette idée que... C'était pas possible en fait. C'est pas possible. Ça devenait, d'un point de vue cognitif, la charge était trop importante. Alors, bien évidemment, on peut couper les notifications, etc. Mais dans ce cas, en fait, on court-circuite la logique de dialogue qu'il y a normalement dans ces réseaux sociaux. Finalement, on peut louper quelque chose d'important et donc on peut se mordre les doigts en disant 3 jours plus tard, mais je découvre ce message qui était super important, on attendait de moi que je réagisse. Donc, en fait, je suis profondément là-dessus, fatigué de tout cela. Et donc, le seul réseau social que j'utilise, mais pour des raisons personnelles, c'est LinkedIn. Et ce n'est pas spécifiquement pour moi-même, mais plutôt pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Mais pour le reste, effectivement, il n'y a plus une seule application de réseau social sur mon téléphone. Et j'avoue que je ne crois pas y avoir perdu grand-chose. Alors, peut-être que je dis ça parce que les gens bien, je les avais déjà rencontrés à une époque où... Je pense notamment à Twitter, où il y avait
Une vraie communauté.
ouais, il y avait une ambiance quand même qui était très, très, très différente. Et donc, tous ces liens, toutes ces personnes extrêmement enrichissantes d'un point de vue humain, soit elles sont devenues de très bons amis comme toi, soit elles restent un petit peu dans ce cercle un peu plus élargi. Donc, grosso modo, tu prends des nouvelles de temps à autre, tu vois leurs publications, mais sous d'autres formes, hein, sous forme d'articles, etc. Et puis après, et ben, tout le reste... Bah, finalement,
Mais je suis d'accord, hein, je pense pas qu'on y perde grand-chose à déserter un petit peu les réseaux sociaux. Je pense que, alors ça fait un peu vieux schnock de dire ça, mais que l'âge d'or est terminé. Non, mais c'est vrai, en fait, tu vois, moi je me souviens quand Twitter a vu le jour, en fait, c'était présenté comme une plateforme de micro-blogging et ça me laissait complètement indifférent. Et puis, c'était, je crois, à la faveur du printemps arabe, je voyais bien que politiquement, il se passait quelque chose sur ces réseaux sociaux et que ça pouvait être intéressant. C'était un peu plus que, tiens, aujourd'hui j'ai fait des crêpes, est-ce que la Terre entière voudrait le savoir? Oui, non. Bah, on s'en fout, j'ai quand même écrit. C'était intéressant. Et puis, effectivement, il y a eu de vraies communautés. Après, je pense que les réseaux sociaux ont échoué sur le plan démocratique pour plusieurs raisons. Mais ça, c'est un autre sujet.
Il y a d'excellents livres sur le sujet, d'ailleurs.
Ouais, il y a d'excellents livres sur le sujet. Et en tout cas, ce n'est pas tellement par là que je passe non plus pour trouver des idées de livres. Alors, il y a d'autres choses, hein. Il y a d'autres réseaux sociaux typés livres. Je crois même que ça doit être toi qui m'en as parlé pour la première fois. C'est Goodreads, par exemple. Je regardais ce qui se faisait d'autre. Bookly semble rencontrer un certain succès. Tu les utilises encore, ces trucs-là
Alors,
ou...
Goodreads, je l'ai utilisé en tant que lecteur et en tant qu'auteur, mais en fait, il a subi en fait la rupture, grosso modo, dans la série de Twitter. C'est-à-dire qu'il y a eu des dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'à partir du
C'est
moment
ça.
où j'ai fui Twitter, bah, dans la foulée, bah, grosso modo, j'ai coupé les branches aussi de pas mal de trucs, avec ce besoin et de repli sur soi-même, parce que j'avais besoin aussi de faire vraiment de conserver mon énergie pour des choses qui avaient une valeur profonde. Mais il y avait aussi ce besoin finalement de renouer avec la brasserie, le café, ces moments où tu peux retrouver d'autres personnes et venir échanger. Et là, j'ai une pensée émue pour Anne et la Guilde des Plumes, parce que je me souviens que la première fois, elle m'a invité pour une session. C'était précisément sous forme numérique, mais de se retrouver finalement autour d'une table et de faire comme si j'étais dans une taverne en train d'échanger sur nos lectures, etc. Et il y avait ce réseau humain à taille humaine, sans parasitage externe et sans milliardaire
derrière,
d'argent, ouais. Charcutant tout esprit démocratique.
Ouais. Bah, encore que le milliardaire derrière Goodreads, en fait, on l'entend pas trop, et puis il semble pas avoir inondé la plateforme de conspirationnistes non. d'extrême droite.
Je pensais surtout Elon Musk pour le coup.
Ouais, j'avais bien compris. Oui, effectivement, mais sur Goodreads, en fait, c'est un peu complètement l'opposé de ce que tu viens de mentionner. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est le réseau social où j'ai le moins d'interactions. Je pense que personne n'en a absolument rien à faire. On indique nos progressions de lecture et nos dernières lectures ou celles qu'on va faire, c'est à peu près tout.
Mais Goodreads n'a jamais réussi à atteindre la masse critique suffisante. Ouais. Vraiment, ouais. Quand on le regarde aujourd'hui, quand on le regarde en 2016 par exemple,
une des pas beaucoup changé.
Il y a eu zéro changement. Et là, peut-être, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que Goodreads faisant partie du groupe Amazon, Amazon n'a pas spécifiquement tiré parti de ce réseau social et n'a pas cherché non plus à le moderniser, à rendre l'outil plus agréable. Par exemple, publier un billet en tant qu'auteur sur cette plateforme, c'est pain in the butt, hein, c'est juste insupportable.
C'est vrai.
Ça marche pas bien.
Même que tu peux même plus citer, si tu peux pas montrer patte blanche, si tu peux pas prouver que tu es bibliothécaire ou tu peux même pas ajouter un livre. Enfin, je veux dire, tu vois, tu veux indiquer ta progression de lecture ou que tu veux lire ce livre et il n'existe pas sur Goodreads, il y est pas. La dernière fois que j'ai voulu en ajouter un manuellement, mais j'ai pas pu en fait.
No.
Donc bon. Ok. Et cette émission touche à la fin. On va passer au dessert. Comment tu gardes trace de tes lectures? Alors là aussi, on a répondu partiellement à ces questions, mais comment tu gardes trace de tes lectures? Quel processus as-tu développé pour mémoriser ou partager ou retrouver les textes que tu as lus? Tu vois, pour te donner une petite indication, par exemple, moi, du processus qui m'est cher, je suis un grand et heureux consommateur de Readwise, que j'ai mentionné tout à l'heure, parce qu'il y a Readwise Reader, donc qui permet d'extraire des articles et puis de les épurer un peu de tout ce qui vient gâcher la lecture, les publicités qui clignotent, les menus, etc., etc. Mais ils ont aussi cette application qui vient aspirer un peu tout ce que tu lis ici ou là, qui vient le rassembler, le synchroniser avec ton application de notes favorite. Et puis dans leur application pour lutter contre la courbe de l'oubli, tu sais, cette courbe qui veut que les informations que tu as retenues diminuent de moitié chaque jour, ce qui fait que, en fait, avant que je découvre cette courbe de l'oubli, moi je vivais dans une culpabilité indicible, tu vois, c'est ce que j'ai appelé dans la saison 1 le syndrome du poisson rouge, tu vois, c'est pas possible, je suis incapable de mémoriser quoi que ce soit, donc cette courbe m'a un peu rassuré. Mais toi, comment tu fais pour te souvenir d'un truc que tu as lu en 2010, enfin, si tant est que ce soit nécessaire, parce que ça dépend aussi de l'ouvrage. Mais...
Alors, je suis beaucoup moins organisé que toi, très clairement. Surtout qu'en plus, je ne me facilite pas la vie, puisque j'utilise au moins 3 médias différents, donc le livre papier, la liseuse Kindle et ma Remarkable, qui finalement a à peu près le même type d'usage que ce que j'aurais avec une tablette en Android. Globalement. C'est-à-dire que il faut trouver un point de convergence sur des trucs qui ne dialoguent pas forcément très bien ensemble. Alors, mon flux est relativement simple, peut-être totalement archaïque, voire anarchique, mais tout doit converger vers mon Google Drive. Pourquoi ? Parce qu'il est impératif qu'il y ait de la reconnaissance de caractère. C'est mon critère. Puisque je passe beaucoup de temps à noter au stylet, il faut absolument que mon écriture puisse être indexée et reconnue. C'est d'ailleurs aussi une zone de progrès pour le Remarkable, puisque le Remarkable peut convertir ton texte au stylet en écriture typographiée. Elle n'est pas capable d'aller reconnaître ton écriture manuscrite, ce qui est très ennuyeux. Par contre, le gros avantage, c'est que tout ça, je peux l'uploader dans mon Google Drive, ce que je ne me prive pas de faire. Et à partir du moment où c'est enregistré dans mon drive, et le texte de l'ouvrage et mes annotations seront indexé. Pour la partie Kindle, quand on prend des annotations sur sa Kindle, ça enregistre en local dans un fichier .txt, mais ça enregistre aussi sur son compte lecteur. Et donc, on a un PDF qui est superbement bien fait, avec la couverture, toutes les références de livres et toutes les annotations. Même chose, c'est un beau PDF, on met ça, j'ai dans mon drive lecture, dans lequel est tout bien. Et enfin, pour les livres papier, eh bien, j'en passe tout simplement par Google Keep, qui me permet de photographier. Il va reconnaître au passage les caractères, il enregistre aussi dans mon drive. Moralité, si je besoin de retrouver une information, je passe par mon drive et quel que soit le support, quelle que soit son ancienneté au passage, quelle que soit sa forme, une image parce que c'était une photographie, un PDF avec des lecteurs manuscrits, etc. Et en plus, ça me permet de retrouver aussi des annotations sur des supports qui ont évolué dans le temps. J'ai utilisé beaucoup Evernote. En gros, j'ai tout uploadé dans mon drive. Or, là-dedans, il y a toutes mes notes PM Ultimate sur mon iPad. C'est indexé, c'est reconnu. Il y a des post-it que j'ai photographiés à droite à gauche pendant des sessions de créativité. Tout cela, finalement, quel que soit le support, va être reconnu. Voilà, donc mon pense-bête est là, c'est-à-dire que c'est mon deuxième cerveau, pour reprendre l'intitulé d'Evernote il y a quelques années. Alors, je me fie énormément de ma mémoire, parce qu'il se trouve qu'il y a plein de trucs que je ne sais pas faire, notamment avec les chiffres, les tableurs, machin, là-dessus, ne comptez pas sur moi. Par contre, sur la partie mémoire auditive, texte et visuelle, là-dessus, je ne dois pas être trop mauvais pour le moment. Et donc, je me souviens assez facilement, un peu comme la Madeleine de Proust, c'est-à-dire que je vais me souvenir de la Madeleine, et quand je vais pris la Madeleine, mais derrière, toutes les autres idées vont se suivre. C'est, ah oui, c'était à telle date, c'était à tel lieu, etc. Et quand ma Madeleine est insuffisante, là, je dégaine mon Google Drive et je fais une recherche. Et franchement, j'y vais en recherche en langage humain. Hein, parce que je sais qu'il y a une indexation qui est extrêmement puissante.
Bon, je ne sais pas lequel est le plus organisé, mais de fait, quand tu fais ta recherche sur ton Google Drive, en fait, dans la zone de recherche, là, tu tapes simplement oui. Et en fait, ça va chercher comme ça trouverait un Google Docs. Ça va trouver ta note Evernote prise en 2014 là, sur un article du Guardian que tu as gribouillé négligemment. Il reconnaît
le post-it qui était collé sur mon écran d'ordi que j'ai photographié, etc.
Ah oui, ouais, c'est cool ça.
Et donc, ça me permet aussi de constituer des collections. C'est-à-dire que quand des sujets en fait, traversent comme ça les années et que je veux me constituer un ensemble documentaire, ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, puisque je ne veux pas être trop pénible, une petite évolution, on en a parlé tous les deux récemment. Je vais voir un peu comment ça s'installe dans mes pratiques parce que j'ai peut-être trouvé... l'outil qui me convient bien, parce qu'en fait, c'est totalement intégré sur mon drive, c'est Notebook LM, donc la récente application de prise de notes et de recherche qui s'appuie notamment sur l'IA.
Ce qui c'est justement une des questions qui suit, donc n'hésite pas, tu ne seras pas pénible, vas-y.
Donc, c'est vraiment une application que j'aime beaucoup, parce que forcément, je peux aller chercher tous mes documents qui sont dans mon drive, quel que soit finalement le format, hein. Ça peut être un Google Doc, ça peut être un PDF, ça peut être une URL, et constituer des ensembles documentaires, et poursuivre mon dialogue avec cet ensemble documentaire, puisque je vais questionner cet ensemble documentaire avec comme médiateur finalement Gemini, et ce dialogue qui s'opère avec l'ensemble documentaire, l'IA et mes propres souvenirs, ça donne lieu justement à de revigorer cet ensemble documentaire, de créer du contenu nouveau, de faire un pas de côté. Parce que quand on se dit le sujet est tout récent, mais non, en fait, il est dans les tuyaux depuis un petit moment. Voyons un petit peu comment la recherche a évolué. Et franchement, cet outil-là me semble très, très, très pertinent dans mes pratiques. Parce que grosso modo, je l'ai testé tout récemment avec mon écriture manuscrite, par exemple, pour voir un peu comment il allait chercher les informations. Ça marche vraiment bien. Et c'est peut-être la grande vertu de ces outils d'intelligence artificielle qui sont capables effectivement d'être très, très, très efficients. Le problème, c'est que si on arrive à reconnaître juste des petites notes prises à l'arrache comme ça sur un coin de table, ça donne lieu quand même à des belles potentialités.
Du coup, tu serais d'accord avec cette assertion, l'intelligence artificielle peut faire de nous de meilleurs lecteurs ?
Je confirme. Je ne suis pas du tout un technophobe, je ne suis pas non plus un adorateur, j'essaie d'avoir une position équilibrée, et clairement, pour moi, l'IA, c'est mon assistant de recherche. J'aurais adoré avoir cela en étant étudiant. Très clairement, quand j'ai rédigé mon mémoire de maîtrise, par exemple, j'aurais été aux anges d'avoir un assistant pour venir m'aider, pour aller débusquer, par exemple, des documents scannés il y a 15 ans, donc qui ont été très mal scannés, parce que grosso modo, c'est juste une image, le texte n'est pas normalement n'était pas indexable. Et puis finalement, aujourd'hui, les technologies sont telles que oui, il te reconnaît le texte dans ton JPEG, et va te permettre d'aller trouver l'information. C'est juste précieux, ça permet de croiser les sources de manière très efficiente. Et peut-être que oui, certains d'entre nous seront peut-être plus paresseux. Mais on tire toujours sur l'ambulance, on s'intéresse toujours aux trains qui arrivent en retard et on néglige l'immense majorité des trains qui sont toujours à l'heure et qui font très très bien leur travail. Mmh. Et ce genre d'outil, pour moi, va bénéficier essentiellement à tous ceux qui font bien leur travail parce qu'ils le feront mieux.
Oui, c'est ça, effectivement. Je pense qu'effectivement, si tu ne travailles pas, ou tu fournis un travail médiocre, il restera médiocre, mais que c'est effectivement un outil qui va bénéficier aux personnes qui font de la recherche. Je parlais des étudiants, effectivement, je pense que moi aussi j'aurais été particulièrement heureux d'avoir ça, et je pense qu'effectivement ça va, c'est susceptible de faire monter tout le monde en compétences, parce qu'en fait quand tu peux comme ça aller puiser, tu vois bah, j'ai fait quelques essais moi aussi avec Notebook LM là récemment, donc je me suis amusé. Parce que Readwise, encore et toujours permet maintenant d'envoyer toutes ces notes dans Google Drive, donc évidemment à partir de là, bah, dans Notebook LM toutes ces petites notes elles sont là, hein. et on retrouve aussi cet appel dialogique en fait que tu as mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que là tu peux t'amuser à faire dialoguer des ouvrages entre eux par l'IA. C'est assez amusant, hein. En fait l'IA va te permettre de puiser dans des océans de données ce que toi tu pourrais pas faire forcément manuellement, hein. Et donc ça c'est précieux.
Oui, parce que à taille humaine c'est très compliqué de venir se faire percuter.
Oui.
Ces masses d'idées qui ont été écrites il y a des époques très différentes, où il y a une improbabilité de pouvoir tomber sur ces interactions-là. Et donc, ça rejoint ces étincelles de créativité. Pour qu'il y ait de la créativité, pour qu'il y ait de l'idéation, il faut que des idées viennent se percuter. Et des idées qui, dans la vie quotidienne, ne se percuteraient pas. Or là, on a cette potentialité de faire effectivement se percuter des idées qui viennent d'horizons différents, d'époques différentes, de lieux géographiques totalement différents, de langues différentes. Et ça, c'est extrêmement précieux. Parce que là, on n'est pas dans cette IA générative qui va juste générer une image à partir d'un petit bouquet déjà de data. Mmh. On va être sur quelque chose qui va venir impulser chez l'être humain du prolongement, du développement. Et là, on rejoint ce que tu avais magnifiquement écrit il y a quelques années à propos du centaure. C'est-à-dire qu'on est dans cette fusion des énergies, et c'est là où c'est extrêmement positif, très clairement.
Oui, mais justement, hein, sur le sujet, alors les termes exacts ne me reviennent pas en mémoire, enfin les noms exacts ne me reviennent pas en mémoire, mais en ce qui concerne les intelligences artificielles génératives, il y a ceux qui effectivement vont générer des photos de, je sais pas moi, de chat ou de Donald Trump, et puis t'as des scientifiques qui utilisent l'ordinateur, enfin la technologie d'IBM, non c'est Google, pardon, c'est Google, mais son nom me revient
pas. DeepMind.
Alors c'est une déclinaison de DeepMind, mais tu sais qui a généré des millions de protéines, tu vois, en fait.
Ça a donné lieu à des prix Nobel tout récemment. Hein.
Ouais, je sais pas ça. Ouais.
Oui. Ouais. C'est pour ça que je crois que toi et moi, on cherche toujours à avoir une position équilibrée, qu'on n'est pas là à brandir le drapeau des GAFAM et à venir le mettre jeter au feu. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Qu'est-ce qu'on fait techniquement de ces physiciens qui viennent d'obtenir un prix Nobel et qui, pour certains d'entre eux en tout cas, travaillent chez Google, on fait quoi ? C'est des villes personnes ? Non, on voit bien que la chose culturelle est extrêmement riche, complexe, et que ces outils, effectivement, qui vont avoir des finalités commerciales, mais de toute façon, c'est ce qui pousse de toute manière à l'innovation. Hein. L'innovation est là pour beaucoup une fin économique, elle doit servir à gagner de l'argent. On est dans une économie capitaliste qui existe depuis l'Antiquité, même si elle est devenue aujourd'hui ultra-capitaliste. Mais quoi qu'il en soit, la culture numérique aujourd'hui, elle est dans les mains de très gros groupes. Amazon est bien évidemment leader, mais Rakuten, Kobo, ce n'est pas non plus la petite PME du quartier. Hein. Rakuten, ce n'est pas un petit groupe. Apple, bien évidemment, avec Books, Playbooks avec Google. Et donc, bien évidemment, tous les éditeurs sont des grosses machines économiques. Et il faut bien que les éditeurs, toi et moi, on a testé l'auto-édition. On sait quelles épreuves il y a entre nous et le lectorat. Hein. C'est loin d'être simple. Donc oui, il y a ces grosses machines qui sont bien évidemment des intermédiaires nécessaires aujourd'hui pour éditer, mais aussi pour travailler ces œuvres. Là, on a parlé de quelques outils qu'on utilise. Ces sociétés ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Alors, bien évidemment, j'entends déjà les défenseurs du libre. Mais oui, mais ce n'est pas incompatible non plus, parce qu'aux dernières nouvelles, si on parle de Google, Chrome repose sur Chromium, qui est un projet open source. Et Google met des millions de dollars chaque année dans un projet open source. Et le code de Chrome est libre. Donc, c'est, voilà. Essayons, je pense que nous avons une position très modérée, toujours ouverte, en dialogue, pas fermer les discussions. Les outils qu'on a évoqués jusqu'à présent depuis le début de ce podcast sont totalement dans cette dynamique.
Absolument. C'est le mot de la fin. Enfin, ce seront les mots de la fin pour cette dernière partie. Mais là aussi, tu y as répondu. Hein. C'est quel livre lis-tu en ce moment?
Oui, alors,
j'ai vu un livre avec plein de rouges sur l'autocratie.
Ouais,
un livre avec plein de verts. Mais ça, c'était la Kindle ouais. Sur la droite, je crois.
Alors, alors là, ça va être en sens inversé à la vidéo, mais c'est donc Laboratories of Autocracy par David Piper. Le livre est excellent, mais aussi fait mal au ventre hein, sur l'état de la démocratie américaine.
Aux États-Unis, oui.
C'est vraiment très, très, très intéressant. Et un peu son pendant, finalement, donc la droitisation française, Mythes et réalités de Vincent Thiberge. Peut-être que je prononce mal son nom. L'ouvrage est tout récent. Hein. Il est génialissime, et ça vient contrebalancer hein, ces idées un peu reçues que notre pays sombrerait dans le conservatisme et que les idées de droite sont majoritaires. Voilà, ça, c'est très politique, c'est très lié à mes études d'histoire, ouais. Puisque j'ai prof d'histoire géo. On ne se refait pas, hein, je reste très attaché à tout cela. Et un petit bonbon, je le lis tous les ans, mais là, je me suis commandé une édition prestige, donc Dracula, qui bien évidemment ressort au cinéma très prochainement. Là, cette édition est juste magistrale, c'est d'une beauté absolue. Ça reproduit à l'intérieur toutes les lettres, puisque Dracula est un roman épistolaire. C'est juste délicieux. Donc, je lis deux livres chaque année, chaque fois. Je relis Le Hobbit et je relis Dracula. C'est mes petits. Ah, voilà, oui. C'est les Madeleines de Proust.
Comment ça se fait qu'il est aussi épais? Il y a des illustrations?
Ouais, le livre est illustré. Et effectivement, puisqu'il reprend la forme épistolaire, bah forcément, ça prend plus de place en écriture manuscrite. Voilà. Et donc oui, ça, on peut se dire, mais ouais, le Dracula, il est aussi gros que ça. Oui, dans cette édition-là, oui. Donc,
c'est un gros Dracula. Ouais.
C'est un gros Dracula, un gros vampire. Ouais.
Un gros vampire, assoiffé de mots. Alors, dernière question, et quel livre brûles-tu de lire ou de relire? Là aussi, tu as répondu. Probablement, tu vas te relancer dans Dracula prochainement.
Ouais, là, bon, mais ça arrive, c'est la vie de lire, en plus je les connais bien, donc c'est juste le plaisir de revigorer, de revivre un peu comme un film préféré qu'on veut le revoir et le faire découvrir à ses enfants. Ce que je dois absolument relire, mais il faut que je trouve le temps, forcément c'est lié aussi à ma passion pour la voix de Tolkien. Je ne l'ai pas relu depuis longtemps et il faut que je me replonge dans le Silmarillion. Je ne l'ai pas relu depuis facile 10 ans. Je l'ai beaucoup aimé. Je préfère le Silmarillion au Seigneur des Anneaux. Je sais que certains vont hurler, mais c'est ainsi.
Je ne l'ai jamais lu. Il faudra que je le fasse. Je ne sais pas pourquoi le bouquin me fait peur. Non,
il est vraiment très, très bien. Il est très musical. C'est vraiment très poétique. C'est vraiment très poétique. Et vu que les années passées, je me suis racheté une édition annotée, etc., commentée donc, par Christopher Tolkien, qui a édité le livre post-mortem, hein, puisque le livre est sorti après la mort de l'auteur. Il faut que je me fasse cette édition qui est là, en train de me regarder dans la bibliothèque en me disant ne m'oublie pas, toi, lis-moi.
Les livres parlent. Merci Ghislain. Ce podcast touche malheureusement à sa fin. Merci d'avoir été le premier invité de cette première émission, cette première saison. Non, pardon, cette première émission de cette seconde saison. Je m'y fais pas, tu vois, on est déjà à la seconde saison. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Mais dis-moi, tu fais quoi le mois prochain?
Alors, hormis garder les livres, prendre beaucoup de notes, j'ai ouï dire que j'aurais le plaisir de pouvoir te reparler très prochainement, ce dont je me réjouis, parce qu'effectivement, on n'a plus les 7 heures de décalage horaire à présent.
Eh bien oui, ça c'est fini ce temps-là. Donc, vous l'aurez compris, vous avez eu le plaisir d'écouter Ghislain Dominé, qui était mon premier invité, mais c'est aussi le... J'ai que le mot en anglais qui me vient à l'esprit, là, co-animateur, merci. Le co-animateur de ce podcast, donc Itinéraire d'un lecteur gâté, saison 2. Nous sommes décidément des lecteurs gâtés, je crois. Et donc, je vous dis à très bientôt, à la semaine, non pas la semaine prochaine, ça c'était.
Mais
on pourrait aussi. On avait décidé un format mensuel, donc pas la semaine prochaine, mais au mois prochain. Merci à tous. Merci,
Ghislain. Merci, Yann.